Et puis, il a donc, outre son travail de directeur de l'IRIS, eh bien, il a écrit de très nombreux livres, en particulier plusieurs avec Hubert Védrine. Moi, je considère que Hubert Védrine et Pascal Boniface sont les meilleurs géopolitologues que nous avons en France. Donc, nous avons l'un d'entre eux cet après-midi, ce soir. Et donc, je lui cède maintenant la parole. Et merci, Pascal.
Merci Jean, tout le monde m'entend, c'est bon là, c'est formidable ce micro. Merci de ton invitation. Je vais effectivement essayer de vous dresser les ondes de choc géopolitique de la guerre en Ukraine, sachant qu'il y a d'abord une onde de choc politique ou sociétale. On n'a jamais autant parlé d'une guerre en France. Ça fait 15 mois que la guerre a commencé, suite à la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine dans l'espoir d'en changer le régime. Et 15 mois plus tard, on en parle encore tous les jours sur les télévisions, à la radio. Pourtant, ce n'est pas la seule guerre. Il y a d'autres guerres qui se déroulent dans le conflit. Et on en parle et surtout, on prend parti, puisque généralement, on soutient l'Ukraine et les reporters sont plutôt à Kiev, les invités sont plutôt, s'ils sont étrangers, ukrainiens. Comment expliquer cela? C'est une guerre qui nous concerne parce qu'elle est sur l'autre continent. Et que ce n'est pas la première guerre en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme certains l'ont dit, parce que dire ça, alors c'est oublier certes des guerres mineures comme la guerre entre la Grèce et la Turquie en 1974, mais c'est aussi oublier la guerre du Kosovo de 1999, où là, mais on en parlait moins parce que là, c'est nous qui bombardions. Donc on avait moins d'images de bombardés, on avait moins d'images de gens qui souffrent sous les bombes, puisque c'est nous, Occidentaux, qui les lancions. Donc on parlait de la guerre, mais on n'avait pas du tout la même attitude là, par rapport à ça. En fait, pourquoi on ne parle pas des autres guerres? Il y a ce fameux syndrome du kilomètre. Plus une guerre est loin, moins on en parle, parce qu'elle ne nous concerne pas. En même temps, ce syndrome n'est pas tout à fait exact, puisque Kiev est plus loin de Paris que Tripoli, par exemple. Donc on voit que si on ne parle plus du chaos en Libye, que l'on a un peu contribué à mettre en place, et qu'on parle de la guerre en Ukraine, ce n'est pas uniquement en kilomètres. Pourquoi donc tout d'un coup on parle de la guerre, on ne parle pas des autres guerres, on ne parle pas, l'auteur Denis Mukwege en parle beaucoup, on ne parle pas de la guerre en RDC, on ne parle pas d'autres populations bombardées à Gaza, etc. Parce que cette guerre nous concerne, parce qu'on en a peur. Parce que c'est la première fois depuis longtemps qu'on se sent menacé par une agression territoriale et que donc on est concerné au premier degré. Et c'est pour cela que nous soutenons l'Ukraine. Nous soutenons l'Ukraine parce qu'il y a en fait un bon idéal qui est Volodymyr Zelensky, il y a un méchant idéal qui est Vladimir Poutine, et l'un et l'autre contribuent largement à façonner ce paysage. Zelensky adore être le bon, Poutine adore être le mauvais, ils réussissent très bien chacun dans leur rôle. On a ces présentations, mais c'est vrai que là, on est concerné et donc on agit, on réagit différemment. Mais c'est là où il y a un premier problème, c'est que si on dit qu'il faut interdire l'acquisition de territoire par la force, pourquoi on ne réagit pas quand le Rwanda contrôle une partie de la RDC? Et si on réagit quand il y a des populations bombardées en Ukraine, pourquoi on ne réagit pas quand d'autres populations également civiles sont bombardées? En fait, ce qu'il faut avoir la pertinence, le courage, la lucidité de dire, c'est que nous mettons en avant des valeurs, mais nous défendons en fait des intérêts. Parce que s'il était question de valeurs, nous irions fournir des tonnes d'armes un peu partout, des peuples qui subissent une agression extérieure, l'Ukraine n'en a pas le monopole, des acquisitions territoriales par la force, l'Ukraine n'en a pas le monopole, la Russie non plus, des populations civiles bombardées, par exemple au Soudan, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évacué nos ressortissants. Et on a bien fait, parce que diable aurions-nous été faire dans cette galère en nous mêlant de séparer les combattants? Et même les médias en parlent moins, vous voyez. Donc en fait, je pense qu'on doit, dans une assemblée quand même, où je pense que le niveau de QI doit être largement supérieur à la moyenne, je pense qu'on doit avoir au moins l'honnêteté intellectuelle de dire, contrairement à ce qu'on nous dit tous les matins, nous ne nous battons pas pour des valeurs, nous nous battons pour des intérêts. Ça ne veut pas dire que les valeurs et les intérêts sont forcément contradictoires. Et là, effectivement, intérêts et valeurs se rejoignent, puisque oui, il y a vraiment un agresseur, qui est la Russie de Poutine, il y a vraiment un pays agressé, qui est l'Ukraine de Zelensky. Et donc, les choses sont claires. Et il y a vraiment des crimes de guerre qui sont faits par l'armée russe, c'est largement documenté, non seulement par les Ukrainiens, mais par une multitude d'ONG de nationalités très différentes, par des journalistes de nationalités très différentes, par une enquête de la Cour pénale internationale, même si, effectivement, chacun sait que le reproche que suscite la Cour pénale internationale, c'est de prendre avant tout des dirigeants africains et pas tellement occidentaux, d'être elle aussi, à sa manière, quelque part, une justice des vainqueurs ou une justice occidentale. Et il y a un paradoxe à ce qu'un pays comme les États-Unis, qui ne sont pas membres à la Cour pénale internationale, soit si vibrionnaire pour y déférer Poutine et d'autres. Là, il y a quand même une contradiction. Et je pense en fait que si on n'aborde pas ces contradictions qui sont celles du monde occidental, on aura du mal à convaincre. C'est-à-dire que si on se ment à nous-mêmes, les autres vont le voir et on aura du mal à leur mentir. Donc autant, je sais bien que quand il y a un conflit, la première victime, c'est la vérité. La seconde, c'est généralement la nuance. Et effectivement, je crois que il est de notre devoir en tant qu'intellectuel, moi de mon devoir professionnel en tant que géopolitologue, de dire les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'elles aimeraient qu'on aimerait qu'elles soient, et de faire la part des choses, même si c'est difficile, parce que de plus en plus, il y a ce qu'on appelle le campisme. On est pour l'un ou pour l'autre. Et une fois encore, il ne s'agit pas de rejeter à responsabilité égale la guerre. Mais pour ma part, je revendique, et peut-être que certains d'entre vous en seront choqués d'ailleurs, et on pourra en parler, pour ma part, je revendique que de dire à la fois, ou en même temps, pour reprendre une expression plus à la mode, je ne suis pas sûr que ce soit tellement à la mode en ce moment, enfin, en tous les cas, souvent employé, pour dire en même temps, oui, nous avons commis des erreurs à l'égard de la Russie, et non, ce qu'a fait Poutine n'est pas excusable. Et Poutine a commis une guerre d'agression, une guerre criminelle, a commis des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Et donc, le fait de reconnaître la culpabilité de Poutine ne doit pas nous empêcher d'avoir une relative introspection sur nos erreurs, ne serait-ce que pour éviter de les recommencer. Là, par exemple, je fais une petite digression, on a beaucoup parlé de la Turquie ces derniers temps. On a du mal quand même, alors les gens aussi ont confondu leur désir et leur réalité, on voulait que ce soit Kılıçdaroğlu qui soit élu, donc on pensait qu'Erdogan allait être battu, mais en fait les Turcs ont voté comme des Turcs, pas comme des Français ou des Allemands, ce qui est quand même curieux, et ils ont envoyé un autre vote, mais on ne peut pas comprendre le vote Erdogan aujourd'hui si on n'a pas en mémoire le fait que l'Union européenne a claqué la porte assez peu aimablement à la Turquie en 2007-2008, et que pendant très longtemps, les Américains ont pensé que les Turcs étaient des bons soldats, mais des mauvais intellectuels, et qu'ils étaient là pour fournir la chair à canon, mais pas pour participer à l'élaboration des plans. Et donc, ça a laissé quelques traces. Donc, en fait, l'humiliation est un profond ressort dans les relations internationales, il est un profond ressort dans les attitudes individuelles, mais également dans l'attitude stratégique. Et dire ça, une fois encore, contrairement à ce que pensait un ancien Premier ministre franco-espagnol, je pense qu'expliquer n'est pas légitimé. On dit il ne faut pas expliquer le Covid-19 parce que c'est légitimé, tout le monde va dire « mais non, on va travailler pour comprendre le Covid-19 ». Dans une assemblée de scientifiques, expliquer n'est pas légitimé. Expliquer, c'est comprendre, ce n'est pas légitimé. Même des phénomènes que l'on veut combattre, il faut d'abord les comprendre, parce que si on ne les comprend pas, si on ne les explique pas, y compris à soi-même, on ne pourra pas avoir une attitude pour les minorer. Comprendre les motifs de la violence n'est pas légitimer la violence, comprendre la délinquance n'est pas légitimer la délinquance, etc., etc. Alors, quelles sont les ondes de choc géopolitique de cette guerre, une fois qu'on a un peu planté ce panorama ? Au risque peut-être de vous étonner, il y a un premier vaincu, c'est la Russie. La Russie a perdu cette guerre. Poutine a perdu cette guerre qu'il a lui-même lancée. Et d'ailleurs, je vais vous faire un aveu. La guerre a commencé le 24 février. Le 22 février, je ne pensais pas qu'il y aurait la guerre. En fait, ce n'est pas moi qui me suis trompé, c'est Poutine. Parce que je ne pensais pas qu'il y aurait la guerre, parce que j'analysais rationnellement les forces en présence, ce qu'il y a à gagner. Qu'est-ce que fait un chef d'État avant de se lancer dans une guerre? Il fait une colonne, avantages, inconvénients. Et s'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, il n'y va pas. Et en fait, très honnêtement, je ne suis pas, puisque Hubert Védrine qui est un très bon ami de Jean et qui est aussi un bon ami, et qui est aussi un très bon spécialiste de géopolitique, Hubert ne pensait pas qu'il y aurait la guerre. Hélène Carrière-Dancausse, qui connaît un petit peu la Russie, ne pensait pas qu'il y aurait la guerre. Nos quatre anciens ambassadeurs à Moscou, qui n'ont pas la même perception de Poutine d'ailleurs, par ordre d'apparition sur la scène, Claude Blanche-Maison, Jean Gignasti, Jean-Maurice Ripert et Sylvie Berman ne pensaient pas qu'il y aurait la guerre, pas plus que les anciens ministres français des Affaires étrangères et pas plus que Zelensky lui-même. Zelensky disait non, il n'y aurait pas de guerre. Et effectivement, pourquoi ? Parce que, parce qu'il se passe là, c'est que la Russie a plus à perdre qu'à gagner dans cette guerre. Déjà, toute l'histoire militaire montre que Poutine avait massé entre 180 000 hommes à peu près, 160 000, 200 000, 180 000 hommes aux frontières de l'Ukraine. 40 millions d'habitants, on ne contrôle pas un pays comme l'Ukraine avec 200 000 hommes. Il en faut beaucoup plus. Il en faut beaucoup plus. Et même si Poutine était parvenu à Kiev, avait tué Zelensky et réinstallé Yanukovych ou un autre à Kiev, il n'aurait pas tenu longtemps. Il n'aurait pas tenu longtemps parce que, vous voyez bien, si les Américains ne tiennent pas en Afghanistan, que les Américains ne tiennent pas en Irak, que les Français ne tiennent pas en Mali, les Russes n'auraient pas tenu en Ukraine. Parce que Poutine a confondu Ukrainiens et Russes. Il pense que les Ukrainiens sont Russes, mais les Ukrainiens, ils pensent qu'ils sont Ukrainiens. Et ça change leur attitude, bien sûr. Et donc, il ne pensait pas qu'il y aurait une résistance. Poutine a surestimé sa force militaire, sous-estimé la capacité militaire ukrainienne pour une bonne raison, c'est que si l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, l'OTAN était dans l'Ukraine depuis 2014. Depuis 2014, il y avait des entraînements, fourniture de matériel, etc. Donc, ce n'était plus l'armée que Poutine avait bousculée en 2014. Il est vrai que les accords de Minsk signés sous les auspices de François Hollande et d'Angela Merkel ont sauvé l'Ukraine. Parce que l'armée ukrainienne était dans la débandade la plus totale par rapport à l'armée russe. Mais entre-temps, il y a eu l'OTAN qui l'a aidé, il y a eu une professionnalisation, etc. Et donc là, l'armée ukrainienne a plus résisté. Et puis, il a également sous-estimé la détermination des Occidentaux à défendre l'Ukraine au nom de valeurs et en fonction d'intérêts en réalité pour défendre l'Ukraine, pour affaiblir la Russie, pour faire effectivement que l'agresseur russe ne soit pas récompensé. Et donc il a fait cette triple erreur d'analyse qui lui coûte très cher puisque là il est enlisé. Quelle que soit l'issue de la guerre, peut-être qu'on aura le temps d'y revenir un peu, mais même si à la fin de la guerre, il garde une partie de la Crimée, il est à peu près certain de pouvoir la garder, sauf un effondrement qui n'est pas l'hypothèse majeure. Mais même s'il garde une partie de ce qu'il a conquis depuis le 24 février, le coût pour ce gain territorial sera sans commune mesure avec l'avantage qu'il en a retiré. Donc Poutine a fait une très grave erreur d'analyse parce que il a cru ce qu'il voulait, non pas ce qui était, et qu'il s'est complètement trompé sur ce qu'était à la fois l'Ukraine, l'armée ukrainienne. Et puis, bien sûr, Biden avait dit qu'il n'irait pas envoyer de soldats pour aider l'Ukraine. Biden ne veut pas plus de guerre, comme Trump, mais il n'avait pas dit qu'il n'enverrait pas de matériel. D'ailleurs, les Américains ont un peu hésité. Le premier mois, ils ont proposé à Zelensky de venir, pas de lui envoyer. Et Zelensky a eu cette formule, à mon avis, fausse, mais si ce n'est pas vrai, c'est trop beau pour que ce ne soit pas vrai. Je n'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin de munitions, j'ai besoin d'armes. Bon. Et à partir de mars-avril 2022, quand les Américains ont vu qu'il y avait des difficultés de l'armée russe, parce que Poutine a surestimé l'armée russe est mal commandée, mal équipée, mal motivée. Donc c'est difficile de gagner la guerre dans ces conditions. Ils ont commencé à envoyer du matériel en masse, et c'est là où les Russes se sont retrouvés. En fait, ce que disait Poutine régulièrement, et notamment au forum de Valdaï, où je me rendais régulièrement et où je ne suis pas prêt de retourner, c'est qu'il avait une formule qui était vraie. Qui était vraie, c'est regarder où était la Russie quand j'ai pris le pouvoir, regarder où elle est maintenant. Et il est vrai que, quand il prend le pouvoir des mains de Boris Yeltsin, la Russie est au fond du trou. Le PIB a été divisé par deux depuis 1991. La production agricole réduite de 40%. Et la Russie est vue, on l'a admis au G7 par pitié, par Hubert a cette expression de la verroterie diplomatique, donc pour calmer un peu, faire un peu de calinothérapie. Mais en fait, elle ne pèse plus rien. Et Poutine, patiemment, avec en partie l'aide américaine de la guerre d'Irak qui va augmenter le cours du pétrole, parce que le pétrole était à un baril à 15 dollars auparavant, ben, quand il monte à 60, puis 80, puis 120, ça permet de, quand, pour un pays dont 75% des recettes d'exportation sont encore issues du gaz et du pétrole, ça change concernant la donne. D'ailleurs, c'est un échec de Poutine. Poutine a réussi sur bien des points, mais son échec, c'est de ne pas avoir diversifié l'économie russe et d'être toujours dépendant, 20 ans après, 22 ans après son arrivée au pouvoir, de cela. Un général américain a cette formule cruelle, la Russie, c'est une station-service avec des fusées. C'est un peu exagéré, mais en tous les cas, ce n'est pas suffisamment diversifié. Et donc, bah, Poutine, en plus, il avait des succès diplomatiques. Poutine était le seul pays qui, par exemple, au Proche-Orient, parlait aussi bien aux Saoudiens qu'aux Qataris, aux Émirats arabes unis et à l'Iran, à Israël et à Hamas. Il avait organisé en octobre 2019 un sommet Russie-Afrique. La France avait fait la tournée des pays africains, il ne faut surtout pas y aller. Il y a eu 47 chefs d'État et de gouvernement qui y étaient. Donc voilà, il avait redonné un poids à la Russie sur la scène internationale. Et il avait reconstruit en partie l'économie. Tout ça s'est terminé. Tout ça s'est terminé pour très longtemps. Il y a désormais une coupure fondamentale et durable tant que Poutine sera au pouvoir et tant que des hommes comme Poutine seront au pouvoir entre la Russie et le monde occidental. Or, la Russie se sent européenne. Les Russes se sentent européens. Ils le sont par leur histoire, par leur construction. Donc ça, la Russie s'est amputée. Les sanctions coûtent, elles nous coûtent aussi à nous, il ne faut pas se gourer, elles coûtent à la Russie. Ce qui coûte encore plus, c'est le million de spécialistes qui ont voté avec leurs pieds et qui sont partis. Parce que ce n'est pas les gens du fond du Tatarstan qui ont quitté la Russie, c'est des gens qui auraient pu être vos étudiants, qui auraient pu être des techniciens, des scientifiques, qui avaient à la fois le capital social et le capital financier pour partir et qui ne voulaient pas vivre dans un pays néo-stalinien ni dans un pays où on risquait d'être mobilisé avec un risque assez fort, si on est mobilisé, ben de mourir tout simplement. Donc cette fuite des cerveaux. Poutine avait dit en 2017 que celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle dominera le monde. Ben, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus qui sont partis. Donc la Russie est durablement affaiblie, coupée du monde occidental, mais elle n'est pas isolée diplomatiquement. Elle n'est pas isolée diplomatiquement parce que, et ça fait 20 ans avec Hubert qu'on fait notre préchi-précha là-dessus, le monde occidental ne domine plus le monde, il ne faut pas confondre communauté occidentale et communauté internationale. La première n'est que la partie de la seconde, elle n'en est pas le tout. Et la Russie n'est pas isolée dans la mesure où, à part les pays occidentaux, aucun pays n'a pris de sanctions contre la Russie. Et qu'il y a même un pays membre de l'OTAN qui n'en a pas pris, la Turquie. Donc en fait, la Corée du Sud, le Japon ont pris des sanctions, mais ce sont des pays qui sont stratégiquement, géopolitiquement occidentaux. Donc c'est ça qui nous pèse, c'est que les sanctions qu'on a prises, ce sont des sanctions occidentales. Et les sanctions, quand elles ne sont pas universelles, bah, on peut plus facilement les contourner, les dépasser, etc. Et donc, c'est ça qui fait que la Russie est affaiblie, mais elle n'est pas coupée dans le monde. Et la question de savoir si Poutine va aller ou non au sommet des BRICS se pose. Il est inculpé par la Cour pénale internationale. Les Africains sont très embêtés, les Sud-Africains, puisque c'est en Afrique du Sud. Mais les Sud-Africains ont fait en février des manœuvres communes avec la Russie. Le ministre de la Défense sud-africain est à Moscou aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas exclure qu'il y aille. En tous les cas, beaucoup de pays continuent à avoir des relations avec la Russie. Et j'y reviendrai parce que c'est la grande leçon de cette guerre. Ça existait déjà auparavant, mais là, ça l'a rendu cristal clair. C'est qu'il y a une coupure entre le monde occidental et la Russie, mais il y a aussi et surtout une coupure entre the West et the Rest. C'est entre le monde occidental et les autres. C'est une coupure qui, si on n'y fait pas attention, va s'agrandir et qui ne joue pas à l'autre avantage. Alors, bien sûr, l'Ukraine est le pays agressé. C'est le pays victime, c'est le pays martyr. Elle a des dizaines de milliers de morts. Alors, beaucoup de militaires, beaucoup de civils aussi. 5 millions d'Ukrainiens qui sont partis. son PIB est en lambeaux. Donc, et elle est bombardée régulièrement, comme Kiev l'a été encore cette nuit. Mais néanmoins, l'Ukraine a acquis dans cette guerre un statut qu'elle n'avait pas. Et donc, si le présent ukrainien est particulièrement désespérant, l'avenir ukrainien est à plus de perspectives. L'Ukraine a obtenu le statut de pays candidat à l'Union européenne, ce qui est, sur tous les critères d'adhésion, une aberration. La décision collective de l'Union européenne de donner le statut de pays candidat à l'Ukraine est une décision prise sous le coup de l'émotion. On a dit qu'il fallait envoyer un signal aux Russes. Je pense que les Russes avaient déjà compris qu'on n'était pas contents. Et que c'est pas...
Il y a un problème de micro, ça grésille. Ah.
Je peux prendre celui qu'a Jean avait ou...
Comme vous voulez.
Oui.
Alors, rendez-moi celui-là.
Ah, je ne comptais pas l'emporter.
Non, non, mais parce que sinon, il va continuer à grésiller. Voilà. Et l'émetteur aussi, s'il vous plaît.
Bon, il n'y a pas de fouille.
Non, non, non. Et je vais vous l'allumer parce que... Là, il est éteint.
Voilà. Vous l'entendez? C'est bon, là? C'est... Voilà. Eh bien, j'espère que ça grésille moins pour les internautes. Donc l'Ukraine a obtenu le statut de pays candidat à l'Union européenne, qui est vraiment une décision à la fois politique et émotionnelle. C'est par rapport aux souffrances du peuple ukrainien qu'on a pris cette décision. On a dit qu'on voulait envoyer un signal à Moscou. Moscou avait compris qu'on n'était pas pour son invasion. Donc le signal n'était pas nécessaire. Et en fait, pourquoi il y a... Ce problème, c'est que l'Ukraine est le seul pays européen dont le PIB par habitant n'avait pratiquement pas progressé entre 1991 et 2022. Et entre dirigeants alternatifs pro-slaves, pro-russes et pro-européens, ce qui unissait l'Ukraine, c'est la kleptocratie des oligarques. Il n'y a pas eu d'homme d'État en Ukraine depuis 1991. Est-ce que Zelensky est celui-là? La question est ouverte. Enfin, en tout cas, il a agi avec patriotisme et avec courage, mais jusqu'ici, eh bien, la corruption était endémique et en fait, très peu d'investisseurs voulaient aller en Ukraine avant la guerre. Et donc l'Ukraine, là, a un statut où on ne lui refusait le statut de candidat à l'Union européenne à l'Ukraine, serait revenu dans le débat public à acquiescer à l'agression russe. C'est en tous les cas comme cela que c'est présenté. Et l'Ukraine, en fait, vous avez vu la visite qu'a fait Zelensky, Rome, Berlin, Paris et Londres, chacun se bat pour être sur la photo. Il faut être à côté de Zelensky, beaucoup de gens veulent aller à Kiev pour une photo opportunité, pour montrer son idée, mais aussi, etc. Et donc Zelensky n'a pas hésité depuis 15 mois à bousculer les dirigeants européens dont l'aide était insuffisante. Là, il était à Berlin il y a deux jours. Il y a un an, il avait refusé que Franz-Walter Steinmeier, le président allemand, vienne à Kiev parce qu'il a été l'homme de Nord Stream 2 et qui a été considéré comme pro-russe. Par contre, Xi Jinping, qui ne lui parle pas pendant un an, après, il le prend au téléphone. On ne peut pas dire que Xi Jinping soit pro-russe. Donc, on voit qu'il y a une sorte de rapport entre l'Ukraine et l'Europe, à l'avantage de l'Ukraine, c'est le pays qui demande de l'aide, mais c'est elle qui a des exigences, contrairement aux pays européens. Et à la fois par volonté de n'être pas le pays qui aide le moins, par volonté de répondre aux opinions publiques occidentales, il y a une sorte de course à l'échalote pour être aux côtés de Zelensky et pour être considéré comme le meilleur ami de l'Ukraine. Le fait de ne pas vouloir soutenir l'Ukraine vous fait passer automatiquement pour un poutinolâtre ou pour un agent du Kremlin. Donc l'Ukraine souffre, mais elle... le vrai enjeu, comment se passera la reconstruction une fois que la guerre sera terminée? Et est-ce qu'il y aura vraiment un ménage qui sera fait par rapport aux kleptocrates? Ou est-ce que la corruption qui continue pendant les travaux, là, hein, tous les gens qui viennent d'Ukraine disent oui, quand même la corruption, c'est pas tout à fait éradiqué, quoi. Hein. Donc est-ce que la corruption sera éradiquée une fois que la guerre aura pris fin? La question est ouverte. En tous les cas, s'il y a à terme un L'acteur géopolitique qui est vaincu, qui perd, c'est l'Union européenne. D'une part, parce qu'elle paye le prix économique le plus fort à cette guerre. Et on le voit tous les matins. Beaucoup de pays européens, bon, l'Allemagne a vu son modèle économique complètement remis en cause. C'était du gaz bon marché pour alimenter une industrie performante. Ben, toc, plus de gaz du tout. Et on achète du gaz cher aux États-Unis. Donc, ça change de modèle. La France a abandonné pour 17 milliards d'avoirs en Russie. Renault, par exemple, avait 2,5 milliards d'avoirs. Zelensky est venu devant l'Assemblée nationale française. Il a nommé des entreprises, dont Renault, qui alimentait la machine de guerre russe en restant en Russie. Donc Renault est parti parce que le dommage réputationnel était trop fort. Du coup, ce sont les Chinois qui ont repris l'usine de Renault pour 1 rouble. Et un oligarque russe qui est très lié au complexe militaro-industriel. Donc ça ne change pas grand-chose par rapport à l'effort de guerre russe, mais voilà, c'est cela. Donc l'Europe perd économiquement, et surtout le modèle économique allemand est remis en cause, et le modèle géopolitique français est lui remis en cause. La France est, au sein des pays de l'Union européenne, la première victime de cette guerre. Parce que l'ADN géopolitique de la France depuis la Ve République, c'est des bonnes relations avec Moscou, que Moscou soit la capitale de l'URSS ou de la Russie, ça n'a pas changé, pour obtenir des marges de manœuvre par rapport aux États-Unis. C'est terminé. C'est terminé, ça ne sera plus possible. Et le projet un peu ancien depuis le début de la Ve République de la France gaullo-mitterrandiste, c'est l'autonomie stratégique européenne. Emmanuel Macron avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale en novembre 2019. Aujourd'hui, on peut juste dire que c'est l'autonomie stratégique européenne qui est en état de mort cérébrale. De retour de Chine, Emmanuel Macron a plaidé pour l'autonomie stratégique européenne en disant que la bataille idéologique avait été gagnée sur ce point. C'est doublement faux. C'est faux en France, où tous les atlantistes ont repris du poil de la bête. Et d'ailleurs, le président de la République a été accueilli par une bordée de critiques pour avoir simplement évoqué l'autonomie stratégique européenne. C'est vraiment juré dans un cloître. C'est vraiment, le mot devient tout à fait inadéquat et devient un peu presque une insulte. Et au sein de l'Union européenne, les autres pays disent non, 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 on ne veut pas de votre autonomie parce que ça serait nous séparer de l'OTAN. Et c'est l'OTAN qui peut nous protéger contre la Russie. Et il n'y a que les États-Unis qui peuvent nous protéger de la menace militaire russe. Dire cela, c'est une double erreur. La première, parce qu'en réalité, il n'y a pas de menace militaire russe. Ils ne peuvent pas. Si l'armée russe n'est pas capable de garder Kherson, je ne vois pas comment ils vont faire pour arriver à Varsovie, Berlin, ni même Paris. Donc en fait, la Russie a montré son inefficacité militaire. Je ne dis pas que c'est un pays pacifique, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en méfier, mais ils n'ont pas les moyens militaires d'attaquer les autres pays européens. C'est juste impossible. Et l'autre erreur, c'est de dire que l'autonomie serait tournée contre les États-Unis. L'autonomie, elle est tournée contre la dépendance. Ce n'est pas la même chose. Mais les États-Unis accréditent parce qu'ils n'ont pas envie qu'il y ait une autonomie stratégique européenne. Ils préfèrent une Europe dépendante, quitte à se plaindre de cette dépendance coûteuse à leurs yeux. Mais donc c'est un jeu éternel depuis la création de l'OTAN, depuis les années 60, etc. Et donc là, en fait, par rapport à l'autonomie stratégique européenne, il y a eu plusieurs phases. Trump est au pouvoir. Les Européens se disent « Ah, quand même, ça serait bien d'avoir un plan B. » Puisque même si le pape critique le catholicisme, même si le président des États-Unis critique l'OTAN, il vaut quand même mieux prévoir autre chose. Bon. Et ensuite, Biden arrive au pouvoir. On se dit, on est rassuré, voilà de nouveau un président classique, c'est très bien. Et toc, arrive la débâcle de Kaboul. De nouveau une inquiétude. Si les États-Unis ne sont pas capables de tenir tête à des miliciens, les talibans, ce n'est pas autre chose. Il faut peut-être qu'on prépare mieux notre défense. Et puis arrive la guerre en Ukraine, et là, panique à bas bord, tout le monde dit, il faut vraiment, il n'y a que l'OTAN, il n'y a que les États-Unis qui peuvent nous aider. Et donc, tous les pays européens ont décidé d'une augmentation massive de leurs dépenses militaires. Pour quoi faire? Pour acheter des armes aux États-Unis, qui ont doublé en 2022 leur vente d'armes. Donc, en fait, il ne faut pas être grand clair pour comprendre que le vainqueur de cette guerre, ce sont les États-Unis, qui ont réaffirmé leur emprise sur l'Europe, alors qu'elle commençait à s'effilocher, qui ont atteint leur objectif, qui, ça va te rappeler des souvenirs, Jean, quand il y avait l'affaire du gazoduc en 80-82, et que le président Reagan voulait empêcher la construction d'un gazoduc qui devait amener gaz russe en Europe, et que Mitterrand et Schmitt, puis Kohl, ont résisté ensemble en disant « bon, on le fera quand même », et c'est Reagan qui a cédé. Ben là, ça y est, cet objectif de loin, des années 80, qu'il n'y ait pas de gaz russe en Europe, c'est la faute de la Russie, hein, je ne dis pas. Mais en tous les cas, cet objectif est atteint. Les ventes d'armes se multiplient en Europe, et donc on voit que les Russes sont les vainqueurs. Et les Russes, par rapport aux objectifs stratégiques russes, Poutine a fait un carton plein. Il voulait contrôler l'Ukraine. Le sentiment national ukrainien est désormais violemment hostile à la Russie. Il n'y a pas... Bon. Il voulait séparer Américains et Européens. C'est exactement l'inverse qu'il a fait. Il voulait démontrer la puissance russe, il n'en a fait que montrer la faiblesse. Et il ne voulait pas que l'OTAN s'élargisse. La Suède, qui était neutre depuis 200 ans, la Finlande depuis 1945, ont rejoint l'OTAN, même si Erdogan est réélu, il va céder sur la Suède très rapidement. Et donc, ces deux pays qui estimaient qu'il n'était pas nécessaire de rejoindre l'OTAN quand Staline était au pouvoir, ont décidé de le faire maintenant. Donc, Poutine a perdu sur toute la ligne. Ce qu'il a fait une catastrophe, il a ruiné son héritage politique. Il a dilapidé cela. Les Américains, par contre, eux, sont ravis, ils sont les vainqueurs. Mais ils sont les vainqueurs de cette guerre, parce qu'ils n'y participent pas, déjà. Mais à condition qu'elle s'arrête assez vite, maintenant. Et c'est pour cela que les Américains craignent deux choses. Ils ne veulent pas, pour l'instant, ni la France ni l'Allemagne donner des missiles à longue portée ou des avions de combat à l'Ukraine pour que la Russie ne soit pas attaquée en profondeur et que, simplement, que les Occidentaux soient entraînés dans une guerre par allié interposé. Mais il y a une autre crainte, et là on en voit beaucoup un philosophe qui plaide pour plus investir la guerre pour aider l'Ukraine, je parle de Bernard-Henri Lévy. Je ne suis pas sûr que le succès en Libye soit tel qu'il faille renouveler l'expérience en Russie, surtout quand on voit la différence de potentiel de déstabilisation à partir de la Russie par rapport à celle de la Libye. Et donc, en fait, l'autre crainte des Américains qui ne battent pas les tréteaux mais qui pensent un peu à l'avenir, c'est que, oui, il faut que la Russie soit vaincue, mais pas qu'elle soit démantelée, pas qu'elle soit totalement détruite. Parce que s'il y avait un vide stratégique entre l'Atlantique et, enfin, dans l'Oural, entre la Chine et l'Europe, le fait qu'il y ait une république autonome, un État indépendant du Daghestan ou une Tchétchénie indépendante, je ne suis pas sûr. Voilà. Et donc, en fait, les Occidentaux raisonnables ne veulent pas d'un démembrement de la Russie, contrairement aux Polonais et aux Baltes, qui le réclament. Le premier ministre polonais, c'est pas Lech Walesa, avait dit « on sera en paix quand la Russie sera ramenée à 50 millions d'habitants ». Bon, il y en a 140 maintenant, enfin, il n'a pas dit ce qui fait les 90 autres. Mais bon, on peut dire, voilà, c'est un sympathique leader en retraite, etc. Mais là, le premier ministre polonais a demandé à ce que la Russie soit démembrée. Faisant cela, il fait un cadeau à Poutine, qui peut dire, regardez, je n'ai pas attaqué l'Ukraine. Je ne fais que défendre la Russie contre les attaques occidentales. Donc, si la guerre dure trop longtemps, elle paye jambe pour les États-Unis, surtout qu'en fait, se profile un autre vainqueur potentiel qui est la Chine. Toujours pour les mêmes raisons, elle n'y participe pas. Et les Occidentaux sont coupés de la Russie est coupée des Occidentaux, la Chine tient les deux bouts du triangle. Kissinger avait théorisé, à juste titre, que dans une relation triangulaire URSS, Chine, États-Unis à l'époque, le pays qui gagnait et celui qui tenait les deux bouts du triangle, qui le fait là, aujourd'hui, il n'y a que la Chine. La Chine a pris le rôle qu'avaient les États-Unis dans les années 70. Et elle ne participe pas. Alors, au début, la Chine était contre la guerre, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la guerre a augmenté le prix des matières premières alimentaires et le prix de l'énergie, qui sont les deux principaux postes d'importation de la Chine. Mais surtout, c'est que la Chine n'aime pas la guerre, c'est le pays de Sun Tzu. Il y a eu un échange, un véritable échange symbolique entre Trump, quand Trump était président, et Carter. Et Trump vociférait sur la Chine, il discutait de la Corée du Nord, que Carter connaît bien. Trump était tout content de son succès en Corée du Nord. Il vociférait contre la Chine, et Carter lui dit, mais vous savez, oui, la Chine est en train de nous rattraper, mais il y a aussi une raison, c'est que j'étais président quand on a ouvert une ambassade à Pékin et que la Chine a ouvert une ambassade à Washington, et en 79, depuis, la Chine n'a jamais été en guerre, et nous, on l'a été chaque année. Donc, ça fait une différence. Donc, la Chine, elle compte devenir la puissance numéro un, normalement, sans guerre. Et là, ce plan russe l'a gêné, et puis, il a surtout ressoudé l'OTAN, ressoudé le monde occidental, et accrédité l'idée de Biden de la nécessité d'une coalition des démocraties contre l'axe des pays autoritaires, que Biden développait comme argument avant la guerre en Ukraine, puisqu'il a fait dès qu'il a été élu. Et son premier voyage en Europe pour le sommet du G7 en juin 2021, sommet de l'OTAN, c'était pour dire ça. Donc la guerre en Ukraine vient nourrir son argumentaire, ne vient pas le susciter. Mais en fait, on voit que ce n'est pas les démocraties contre les pays totalitaires, parce que le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud et des dizaines d'autres pays du Sud ne sont pas des pays totalitaires ou autoritaires. Ce sont des démocraties, mais ils ne sont pas pour autant du côté occidental. Et donc, c'est un changement fondamental. Et donc, en fait, les États-Unis voient avec un peu d'inquiétude Zelensky qui fait les risettes à la Chine, mais imaginez si la Chine était partie prenante à un règlement d'un conflit né en Europe. Ça serait quand même une grande première. Et là, on a vu une autre grande première, c'est qu'il y a eu une réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, sponsorisée par la Chine. Donc les pays, chacun ayant son fondamentalisme musulman personnel, c'est un pays communiste qui a servi de médiation pour cela. Donc, en fait, la Chine est en train de tirer les marrons du feu. Pourquoi ? Parce que, en fait, si les Américains ont augmenté leur emprise sur l'Europe, ils ont diminué leur emprise partout ailleurs. Et c'est là qu'on voit cette division The West versus The Rest. La doctrine Monroe s'est terminée. Le pacte du Quincy, dans lequel l'Arabie Saoudite s'engageait à livrer du pétrole abondant et bon marché aux États-Unis, en échange d'une protection, non pas du royaume, mais du régime, c'est fini. Joe Biden avait dit qu'il ferait de MBS, Mohamed Ben Salman, le prince héritier et véritable dirigeant de l'Arabie Saoudite, un paria. Parce que il est vrai que MBS avait ordonné l'assassinat et le découpage d'un journaliste, Jamal Khashoggi, extrêmement bien implanté à Washington. Cet assassinat a horrifié le monde entier, on en parle tout le temps. On parle nettement moins des dizaines de milliers de yéménites qui ont été tués dans la même période. Vous êtes même compris en France. J'ai eu encore un débat à propos d'autre chose, d'un footballeur qui devrait aller, Messi, qui devrait aller en Arabie Saoudite. Les gens disent, ah, on ne peut pas aller dans le pays qui a assassiné Jamal Khashoggi. Alors, si on ne devait pas aller dans les pays où il y a un opposant qui a été assassiné, bah, même en France, on ne pourrait pas y rester, historiquement. Et en tous les cas, on parle toujours de ça, mais jamais. Un mort ne vaut pas d'autres morts. C'est quand même, ce relativisme doit être bon. Et donc, pardon cette digression, Biden dit qu'il ferait de MBS un paria, et puis il y a une crise pétrolière, et donc il va à Riyad pour lui demander d'augmenter la production de pétrole. Et généralement, quand le président américain, il n'a pas à se déplacer, il téléphone, c'est fait. Là, il se déplace, celui qui a dit qu'il en ferait un paria. Et MBS lui dit, non, je ne peux pas augmenter la production de pétrole, c'est l'émission de l'OPEP, et on va en parler. Et trois semaines plus tard, il dit, eh ben, on va la réduire, en fait, la production de pétrole. Je me suis entendu avec les Russes. On va réduire parce qu'on a besoin que les prix montent un peu. Voilà. Donc, les États-Unis ont perdu leur impérium. Et la Chine, dans la configuration actuelle, va un peu partout. Et le coup de proposer un plan de faire poireauter Zelensky pendant un an et de l'appeler, et Zelensky est tout content d'avoir Xi Jinping au téléphone. Mais en fait, partout, les Chinois vont, et notamment en Afrique, qui est un continent capital pour eux, mais également en Amérique latine, pour dire, bah, écoutez, nous, on a fait un plan de paix, il a été rejeté. Zelensky ne l'a pas rejeté. Les Occidentaux l'ont rejeté, pas Zelensky. On a fait un plan de paix, nous, on est pour la paix. Par contre, il y a un pays qui alimente la guerre en livrant toujours des armes à un belligérant. Nous, on ne livre pas d'armes à la Russie. Les États-Unis, on livre à l'Ukraine. Donc, si la guerre continue, ça cause les États-Unis, parce qu'ils livrent des armes à l'Ukraine. Et ça marche. Parce que Lula, qui n'est pas communiste, a dit encore récemment qu'il fallait peut-être, au prix de concessions territoriales, aller vers la paix. Et dans beaucoup de pays du Sud, le débat il est entre la paix et la justice. Si tu veux la justice, il faut que celui qui a perdu le territoire les récupère. Mais la justice n'a jamais été respectée. Ils disent, mais nous, quand on est en guerre, vous ne vous occupez pas de nous. Nous, on perd des milliers. Et les États-Unis ont fait la guerre d'Irak. Est-ce qu'on a empêché les athlètes américains d'aller aux Jeux Olympiques? Est-ce qu'on a demandé à ce que George Bush soit déféré devant la Cour pénale internationale? Est-ce qu'un seul pays a pris des sanctions contre les États-Unis après la guerre en Irak, qui reste un marqueur extrêmement important dans tous les pays du Sud? Donc, en fait, ils disent pas de salisette. On va pas. Le fait de prolonger la guerre, eux, les territoires perdus, ce n'est pas leur problème. La guerre paraît lointaine pour eux. C'est une affaire d'Européens dont ils payent le prix. Donc quand la Chine arrive en disant, eh bien, écoutez, nous, on va proposer une paix, il faut que chacun fasse des concessions et que l'Ukraine fasse des concessions. Bon. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Comme vous l'avez vu, l'Ukraine s'arme. Il y a une balance démographique qui est favorable pour la Russie. 140 millions d'habitants, 40 millions, même un peu moins en fait, pour l'Ukraine. 7 millions d'Ukrainiens avaient fui le pays entre 1991 et 2015. Parce qu'ils n'avaient aucune perspective. Ce n'est pas la guerre qui les a fait. Avant l'annexion de la Crimée, il y avait 7 millions d'Ukrainiens qui avaient quitté le pays, qui s'étaient exilés parce qu'ils n'avaient pas de quoi vivre ou aucune perspective. Donc l'Ukraine mobilise. Il commence à y avoir quelques désertions en Ukraine parce qu'en fait, les gens étaient prêts à mourir pour Kiev, pas pour le Donbass et encore moins pour la Crimée. Poutine multiplie les défenses, les bombardements. En fait, moi, j'interprète la dernière visite et l'empressement des Allemands, des Français à donner des promesses d'aide à Zelensky et les Américains. Tu ne pourras pas dire que c'est à cause de nous que tu as manqué ta contre-offensive. Et on va voir ce que la contre-offensive va donner. Zelensky dit, bon, j'attends encore un peu. Avant, il attendait parce qu'avec la boue du dégel, il ne pouvait pas avancer. Maintenant, il peut pour des raisons climatiques. Mais il n'est pas sûr de gagner. Et la contre-offensive, c'est un fusil à un coup. Parce que s'il la loupe, bah, la guerre s'enlise et l'aide va s'arrêter. Il y a des élections l'an prochain aux États-Unis. Si c'est Trump, il va dire, moi j'arrête l'aide à l'Ukraine. Et Biden devra en tenir compte dans un combat électoral. Donc le temps joue pour Poutine. Donc soit il y a une contre-offensive qui réussit et l'Ukraine récupère ses territoires. Je doute qu'elle récupère la Crimée. Et je doute qu'elle récupère tous les territoires perdus depuis le 24 février 2022. Et puis ensuite, on poussera tout le monde à négocier, parce que les gens seront de guerre lasse. Ce ne sera pas forcément un accord, ça peut être la fin de la guerre comme en Corée, il n'y a pas d'accord entre les deux Corées, et il n'y a plus le conflit pour autant, et les choses vont assez bien. Mais les Américains commencent à trouver que le temps ne joue pas pour eux non plus. Voilà un peu ce que l'on peut dire. Moi, ce qui me paraît le plus important, c'est, dans les médias, on dit, c'est la foire au pont aux ânes, démocratie contre dictature. Non, le Brésil n'est pas une dictature. L'Afrique du Sud, l'Inde est un pays avec une dérive nationaliste, mais c'est une démocratie. Et donc, en fait, là où c'est fondamental, si nous continuons à penser comme auparavant, comme on l'a fait pendant 5 siècles, qu'on peut diriger la manœuvre, nous, occidentaux, on va à la catastrophe. Si on ne comprend pas qu'il faut faire de la place aux autres et tenir compte de la vie des autres, parce que, pour reprendre le titre d'un très bon livre de Maurice Gourdeau-Montagne, qui était l'un des chapas de Chirac, « Les autres ne pensent pas comme nous ». Et si les autres ne pensent pas comme nous, c'est parce qu'ils sont sous-développés ou malsains, c'est qu'ils n'ont pas la même ADN géopolitique,
la même histoire, etc. Et qu'il faut respecter cela. Mais par exemple, les sanctions, si on avait commencé à réfléchir avec les autres pays à prendre des sanctions contre un pays qui avait agressé un autre et qui avait pris des territoires par la force, ça aurait peut-être marché. Si on prend les sanctions et qu'on dit aux autres pays, bon écoutez, on s'est réunis entre nous occidentaux, donc on a pris des sanctions parce que le droit international a été violé, faut faire comme nous, ils disent, attendez, vous avez violé, depuis tout le temps vous violez le droit international, donc ne venez pas jouer les victimes quand c'est pas votre allié, mais c'est votre rival qui viole le droit, parce que quand c'est vos alliés, vous ne dites absolument rien, et deuxièmement, bah, on a notre mot à dire, et non, nous on a nos intérêts. Et en fait, on est en plus... Les pays du Sud, ils condamnent l'agression de la Russie, pour la plupart d'entre eux, 140 pays ont voté la résolution qui condamne l'agression de la Russie, mais ils ne veulent pas s'auto-mutiler en prenant les sanctions dont ils paieraient le prix. Et il y a des raisons très diverses. L'Afrique du Sud se rappelle que du temps de l'apartheid, c'était plutôt Moscou qui était de son côté que Washington, etc. etc. Mais les pays se disent, bah, moi j'ai envie d'avoir des relations et avec Moscou et avec Washington, et surtout et avec Pékin et avec Washington. Et si on leur demande de plus en plus de choisir, il n'est pas certain qu'ils choisissent Washington. Donc il ne faut pas réfléchir comme au cours des 5 derniers siècles où nous dominions le monde et nous pouvions imposer aux autres nos lois, notre agenda. En fait, là, on a un peu une sorte d'effet ciseau. Notre emprise sur le monde extérieur est beaucoup plus faible qu'auparavant. Et certains, pas tous, certains occidentaux voudraient encore plus exiger des autres de les suivre. Cela ne peut pas fonctionner. La guerre en Ukraine a à la fois bouleversé le paysage, mais elle n'a pas créé un monde entièrement nouveau. Elle a accentué des tendances, mais elle débouche quand même sur une coupure durable entre la Russie et le monde occidental, sur un réaffermissement des liens transatlantiques par rapport entre l'Europe et les États-Unis, et la continuation de la montée en puissance de la Chine, parce que le vrai problème pour les Américains, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine, et que le vrai défi, il est là. Et qu'une des erreurs des Américains que certains géopolitologues mettait en avant depuis longtemps, c'est de dire que si le principal défi pour Washington, c'est la Chine, ben c'est une erreur de pousser la Russie dans les bras de la Chine. Et aujourd'hui, la Russie est devenue un client de la Chine. La relation bilatérale, elle est complètement... La Chine a entouré la Russie pour en faire un pays qui dépend d'elle. Alors que ce n'était pas le cas auparavant. Et ça, ce n'est pas une bonne chose pour les États-Unis. Voilà, je vous remercie et je serai ravi de répondre à vos questions.
On va commencer les questions par la salle. Bruno.
Excusez-moi, j'amène le micro.
Alors, bonjour le Zoom, et puis surtout merci Monsieur Boniface. Moi j'ai 1000 questions, mais je vais essayer de me limiter à deux champs, le champ économique et le champ politique. Alors, dans le champ économique, vous avez parlé brièvement de la reconstruction. On l'a vu dans tous les conflits que vous avez évoqués, les États, à commencer par les États-Unis, se précipitent. Donc, quid de la reconstruction ukrainienne et en particulier des intérêts français? Et accessoirement, est-ce qu'on a une idée du coût pour l'Europe de la guerre? Enfin, je pense qu'une grande partie de la coopération et des armes, c'est cadeau. Et dans ce volet économique, l'Ukraine, vous le savez mieux que moi, c'est l'Est et l'Ouest, avec une région qui est pro-russe. Est-ce que vous les voyez effectivement un sentiment de cohésion nationale? Deuxièmement, sur le plan politique, vous avez dit, et je ne peux qu'être très d'accord, en gros, approfondir avant d'élargir, et c'est une grosse erreur d'aller proposer le statut d'État candidat. Politique fiction, quel statut aurait-on pu inventer pour raccrocher l'Ukraine à une Union européenne sans aller jusqu'à ce statut candidat. Bon, et puis je m'arrête, je vous remercie. Au passage, qui a saboté le gazoduc à votre avis?
J'en ai aucune idée sur la dernière question. J'en ai vraiment aucune idée. Bah, c'est soit les Américains, soit les Russes. Certains disent les Britanniques. Tout est possible. Et il y a Seymour Hersh, qui est un journaliste réputé, qui a dit qu'il a la preuve que c'est les Américains, mais on n'a pas vu les preuves. Et donc, on risque d'avoir longtemps des théories contradictoires. Je ne suis pas économiste pour votre première question. Il m'est difficile d'y répondre. Mais en tous les cas, oui, c'est l'Europe qui en paye le prix. Toutes les livraisons, c'est cadeau, effectivement. Tout ce qu'on a abandonné là-bas. La France était le premier employeur en Russie. Donc, on a abandonné 17 milliards d'avoirs. Société Générale, Renault, etc. La reconstruction, elle était évaluée il y a 4 mois déjà à 500 milliards. Donc, ça sera encore plus que ça. Et c'est évidemment l'Europe qui va payer. C'est évidemment l'Europe qui va payer avec une Ukraine qui ira remercier les États-Unis de l'aide qui a été apportée. Parce que les Américains vont dire, nous, on a fait le boulot, on vous a aidé militairement. Maintenant, pour la construction, c'est aux Européens. Et on aura ce paradoxe où on va payer, mais les Ukrainiens sont, du fait de la guerre, devenus pro-américains plus que pro-européens. Ils veulent les crédits européens, mais ils veulent la protection américaine, comme la Pologne aujourd'hui. Et ça sera encore pire parce que la Pologne n'a pas subi une guerre récente que l'Ukraine. Pour votre question de que faire, Mitterrand avait proposé en 95 la Confédération qui avait été refusée, en 91. Là, Macron reprend un peu cette idée avec la Communauté européenne politique, ou je ne sais plus l'acronyme. Voilà, c'est, je crois honnêtement qu'il faut à un moment dire stop aux élargissements. Parce que les niveaux sont différents. Ça ne veut pas dire qu'on coupe les ponts, mais il y a plusieurs. Ou alors on recrée une union à géométrie variable avec un noyau dur. Et ça peut être aussi une façon. Il y a l'Ukraine, mais les Britanniques, les Turcs peuvent être aussi concernés par ce modèle. Mais disons que si on fait rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne va. Souffrir et surtout, elle ne sera jamais plus l'espoir d'une autonomie stratégique parce que l'Ukraine sera corps et âme dévouée aux États-Unis.
Merci, monsieur. Oui, merci beaucoup, c'était passionnant. Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de la menace nucléaire tactique ?
La menace existe, mais c'est une menace, c'est-à-dire que ça fait partie du jeu. Ça ne donnerait pas un grand avantage à l'armée russe de l'utiliser. Par contre, ça la couperait de la Chine et de l'Inde aussi, etc. Donc, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ceci étant, le jeu n'en valait pas la chandelle d'attaquer l'Ukraine au départ. Donc, je pensais à la fois que Poutine joue là-dessus, sur la peur, et c'est aussi pour cela qu'on ne donne pas d'armes à longue distance aux Ukrainiens. En fait, la Russie, de façon assez curieuse, est dans la situation par rapport à l'OTAN, de ce qu'était la France par rapport à l'URSS du temps de la guerre froide, la dissuasion du faible au fort. Et donc cette menace nucléaire que la Russie met en avant de façon subtile selon la personne qui en parle, Poutine n'en a jamais parlé, d'autres oui, c'est une façon de dire attention, pour moi c'est une façon de sanctuariser la Crimée. Poutine pourra accepter de perdre le Donbass, mais pas la Crimée. D'autant plus que les gens qui habitent en Crimée se sentent russes, pour la plupart d'entre eux, et pas ukrainiens.
Merci beaucoup pour cet exposé très très clair. Vous nous avez expliqué au début que les pays occidentaux s'étaient engagés principalement par intérêt plutôt que par conviction, mais à la lumière de ce que vous nous avez expliqué par la suite...
Je dis que les convictions cachaient les intérêts, que les deux existaient.
Oui, mais ça veut dire que les pays comme la France ou l'Allemagne, dont vous avez montré qu'elles avaient beaucoup perdu à cause de cette guerre... C'était vraiment trompé s'ils avaient pensé que ce soutien était dans leur intérêt. Et puis, deuxièmement, inversement pour les États-Unis, est-ce que ça voulait dire qu'ils voyaient déjà leur intérêt, c'est-à-dire qu'ils voyaient déjà cet avantage qu'ils ont pris grâce à cette guerre, c'est-à-dire, est-ce qu'ils avaient prévu tout ce qui allait se passer? Ça paraît difficile de le, de l'imaginer. Donc voilà ma question.
Bah, au début, la France et l'Allemagne même, étaient plutôt réticents à aider l'Ukraine. De ce fait, au début, la France et l'Allemagne voulaient conserver des entreprises en Russie. Ils ont cédé parce que le fioul émotionnel, à la fois des autres pays européens et de leur propre opinion publique, rendait cela impossible. Et quand vous avez des images de bombardements, des civils qui sont tués, que le président vient dire « ce sont vos entreprises qui aident l'effort de guerre en Russie », il faut avoir des nerfs d'acier pour résister à cela. Donc voilà, on a cédé beaucoup à l'émotion par rapport à cela. Il était impossible de dire « on reste en Russie », comme si rien ne se passait. Et là, la proximité de la guerre change un peu les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit qu'on défend des principes, oui, mais on défend à géométrie variable, parce qu'on ne défend pas les mêmes principes partout de la même façon. Or, la grande contradiction, c'est que les principes sont universels. Donc, si on ne défend pas les principes de façon universelle, c'est qu'on défend autre chose. C'est ça. Disons, j'essaye un peu de mettre un coup de projecteur sur quelque chose qui est volontairement laissé dans l'ombre. On met toujours en avant la morale, tout en mettant les intérêts sous le tapis, et il y a beaucoup d'hypocrisie à faire ça.
Mais pour formuler ma question d'une manière un peu différente, ça veut dire que la France, finalement, par exemple, a joué contre ses intérêts. Est-ce qu'elle était consciente qu'elle jouait contre ses intérêts ou pas ?
Oui, mais elle ne pouvait pas faire autrement d'un certain côté. C'est-à-dire qu'on est entraîné dans une guerre qu'on n'a pas déclarée, on ne peut pas accepter cela, et donc il faut faire certaines choses, effectivement, qui sont contraires à nos intérêts, mais disons qu'il aurait été encore plus grave de ne pas le faire, parce que sur le long terme, on aurait payé encore plus. Mais une fois encore, pour bien clarifier ma pensée, je ne dis, il y a bien un agresseur, un agressé. Il y a bien une violation du droit international. On y est beaucoup plus sensible parce que nos intérêts sont en jeu, justement.
Oui. Merci, Monsieur Boniface. Juste quelques mots. Je voudrais que vous nous rappeliez les accords de Minsk sur la Crimée et surtout Sébastopol.
Alors, les accords de Minsk ne portent pas sur la Crimée. Les accords de Minsk avaient... Et Sébastopol n'est pas concerné. Les accords de Minsk sont signés... Il y a deux accords de Minsk. Les accords Minsk 2 signés en 2015 sous la houlette de François Hollande et Merkel prévoient grosso modo cela. Un cessez-le-feu entre Russes et Ukrainiens qui se faisaient la guerre. Et il y avait des milliers de morts. Un cessez-le-feu, sachant que l'armée russe bousculait l'armée ukrainienne. Et que Angela Merkel a reconnu par la suite que c'était cela. Et ensuite, les Ukrainiens ont refusé l'accord de Minsk, notamment Porochenko, en disant on les a signés sous la contrainte parce qu'on avait un rapport de force défavorable. Donc, on a signé dans l'urgence ces accords, ils ne sont pas justes, on n'aurait jamais dû les signer. Tout ça est un peu vrai. Ils ont signé parce qu'ils perdaient la guerre et qu'à l'époque, ils ont trouvé qu'ils avaient au moins le mérite d'arrêter la guerre et l'avancée des troupes russes et les indépendantistes. Mais grosso modo, ils prévoient la Crimée n'est pas concernée, mais ils prévoient ces relayés à plus tard. La France et l'Allemagne n'en connaissent pas l'annexion de la Crimée, mais on ne parle pas de la Crimée. Ils prévoient qu'il y ait d'abord une autonomie interne au Donbass dans le cadre de l'État ukrainien, pas une indépendance, mais qu'on change la constitution pour donner une sorte de décentralisation. Et une fois que cette autonomie sera donnée au Donbass, l'armée ukrainienne s'y redéploie et les indépendantistes russes rendent les armes. Et en fait, les Ukrainiens, après, ont voulu inverser l'ordre des priorités en disant « on donnera l'autonomie quand vous aurez désarmé les indépendantistes ». Et c'était évidemment inacceptable pour eux et pour la Russie. Donc en fait, oui, la Russie n'a pas mis en œuvre les accords de Minsk, mais ceux qui les ont les plus refusés, en quelque sorte, ce sont les Ukrainiens.
Merci, M. Boniface, c'était très intéressant. Alors, pour arrêter la guerre, il faut que les deux parties soient partie prenante. Alors, c'est vrai que la Russie est épuisée, mais le président est entouré d'une nomenclatura de Sloviki qui semble, d'après ce qu'on entend, être tous encore plus belliqueux qu'il ne l'est lui-même. Et donc, ne risquait-on pas, même s'ils arrêtent un cessez-le-feu pendant un certain temps, qui peut être des mois ou des années, que ça reprenne assez rapidement ?
Oui, mais ils ont... Enfin, quand même, l'échec est cuisant. s'ils veulent reprendre, ils ne vont pas reprendre avant un certain temps, parce qu'il faudra quand même qu'ils reconstituent leur potentiel et qu'ils se sont rendus compte que finalement, ils auraient mieux fait d'y réfléchir à deux fois avant de se lancer. Donc l'ampleur de... Pourquoi les Américains ne veulent plus se lancer dans des guerres? Parce qu'ils ont vu l'Irak et l'Afghanistan. Pourquoi on fait gaffe? Parce qu'on a vu la Libye. Voilà, et le Vietnam il y a plus longtemps. Donc je pense que... Là, je ne parle pas de la volonté. Je parle de la capacité. La capacité de la Russie à agresser un autre pays est quand même très faible.
Oui, Jacques Bordet, merci pour cet exposé. Vous n'avez pas mentionné l'ONU et la façon dont l'ONU se sort de la situation actuelle. Est-ce que ça ne montre pas encore plus les faiblesses des statuts de l'ONU, du Conseil de sécurité, présidé par la Russie aujourd'hui? C'est quand même un peu fort.
Plus maintenant, c'était pour un mois. C'était pour un mois la présidence du Conseil de sécurité par la Russie. C'est tournant. Donc il y a 15 membres, c'est au tour de bête. Donc la Russie l'a pris le 1er avril et un autre pays lui a succédé le 1er mai et un autre succédera. Et la présidence du Conseil de sécurité, c'est vraiment donner la parole. Il n'y a pas un pouvoir d'autorité là-dessus. Alors, en fait, l'ONU, si vous voulez, elle est prisonnière de la division des États membres, notamment des grandes puissances, notamment des membres permanents du Conseil de sécurité. Ce n'est pas tellement l'ONU en tant que telle, en réalité. Souvent, on accuse le droit de veto, mais s'il n'y a pas de droit de veto, il n'y aurait pas d'ONU. Jamais, ni les États-Unis, ni l'URSS n'auraient accepté d'entrer dans une organisation où ils auraient pu être mis en minorité sur les questions de sécurité. Donc, en fait, je pense que quand on vise l'ONU, on se trompe de cible. Le problème, c'est la rivalité entre les grandes puissances. Et l'incapacité de l'ONU n'est pas la cause de cela, elle en est le reflet.
Je voulais poser une question qui rejoint tout à fait la question précédente, c'était est-ce que ce serait possible de modifier les statuts de l'ONU, peut-être après un vote à l'Assemblée générale, pour qu'un des membres du Conseil de sécurité, notamment un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, soit exclu automatiquement en cas d'agression d'un pays tiers?
Oui, alors on peut voter là, à l'Assemblée générale, on peut voter ça, et après il faudrait que le Conseil de sécurité ratifie ce vote. Et donc les pays qui ont le veto pourront mettre leur veto à cela. Et donc on ne peut pas réviser la charte des Nations Unies sans un accord des 5 membres permanents. Et dans le cas présent, il y aurait un deuxième membre qui mettrait son veto, la Chine.
Merci encore pour votre exposé. Vous l'avez commencé en soulignant que Poutine s'était complètement trompé sur la situation en Ukraine, etc. Comment expliquez-vous ça de la part d'un ancien membre du KGB, qui quand même doit avoir un certain nombre de sources d'enseignement? Est-ce qu'il comptait sur le nationalisme russe pour le soutenir, notamment de l'Église orthodoxe, dont apparemment Kirill aussi est un ancien membre du KGB? Comment expliquez-vous
ça? Pourquoi ancien?
Oui.
Alors, comment expliquer cela? Et c'est la question à 500 milliards de dollars, en réalité. Si on réfléchit, il y a l'usure du pouvoir. Plus vous restez au pouvoir, moins vous écoutez les critiques, plus vous vous fermez, plus il y a une cour qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Donc, ça a joué. Deuxième chose, c'est que pourquoi Poutine s'est trompé, hein, il y a aussi, je pense, l'isolement lié au Covid-19 qui a renforcé son isolement. Vous avez tous en mémoire cette immense table qui le séparait d'Emmanuel Macron. Il avait peur de la maladie. Pendant 3 ans, il est resté enfermé au Kremlin ou dans sa datcha. Il n'a pas vu grand monde. Et donc, toujours le biais de confirmation. Et puis, il a en fait un peu pensé que les Ukrainiens allaient réagir comme les gens en Crimée ou dans le Donbass, les accueillir dans la liesse et la joie, alors qu'ils ont accueilli avec des mitraillettes et des obus. Et donc, il s'est auto-intoxiqué en pensant que les Ukrainiens étaient russes. Donc, toute une suite d'erreurs d'analyse, mais je pense que Poutine est quand même quelqu'un, enfin, il me donne le sentiment d'être quelqu'un qui a accumulé de la puissance et de la richesse pendant 22 ans et qui a tout dilapidé en jouant en faisant un coup qui n'était pas maîtrisé.
Merci. Alors, j'avais 2 autres questions, mais je vais répondre direct, faire écho à celle qui a été posée juste avant. Je l'ai simplement posée. Devons-nous pas craindre dans ce conflit davantage l'irrationalité de Vladimir Poutine? Merci.
Non, il n'est pas irrationnel, il fait des erreurs d'analyse. Mais il n'est pas irrationnel. Quand Kennedy fait la baie des cochons ou intensifie la présence militaire au Vietnam, il n'est pas irrationnel, il fait une erreur d'analyse. Quand le bureau, quand le Politburo décide de la guerre en Afghanistan, ils ne sont pas irrationnels, ils font une erreur d'analyse. Je pense qu'il ne faut pas confondre irrationalité. Poutine n'est pas quelqu'un de fou qui dit « Ah, attends, j'ai appuyé sur le bouton », etc. Mais il a fait une erreur gravissime d'analyse. Mais c'est différent de l'irrationalité. Disons que dans son calcul rationnel, il manquait des éléments.
Bien, on va donner la parole aux internautes qui tous vous remercient pour votre remarquable présentation, ce que je fais aussi d'ailleurs. Merci. Alors, je vais faire la synthèse des questions qui ont été posées. Il faut que je relise ça. Une des questions, c'est dans le cas d'une reprise du Donbass par l'Ukraine, si jamais ça arrive, qu'arriverait-il aux populations russophones et séparatistes ? Ou séparatistes ? Je pense que c'est un problème qui est déjà récurrent.
Une grande partie partira en Russie. Les autres, il y aura des règlements de compte. Hein. Mais je pense que beaucoup partiront en Russie.
Alors, il y a un commentaire qui m'a paru assez pertinent, c'est quand on regarde la stratégie de la Chine vis-à-vis justement des pays qui soutiennent quand même Poutine, finalement, est-ce que les États-Unis et l'Europe, l'Union européenne, ne devraient pas s'inspirer de la stratégie de la Chine très efficace avec la construction et l'investissement massif dans les structures des pays du Sud?
Oui, parfaitement. C'est que les États-Unis, ils amènent des bombardiers, la Chine des ports et des aéroports, donc les routes de la soie. Alors, il y a le piège de la dette, mais c'est vrai que nous, on critique la Chine. Alors, il y a quand même une prise de conscience des Européens et des Américains qui se sont dit, il faut qu'on investisse en Afrique. Il y a plus un plan américain et un plan européen pour contrer. Mais en plus, c'est dit comme ça, on fait ça pour contrer la Chine. On ferait mieux de le présenter autrement. Mais il y a une prise de conscience un peu tardive qu'il ne suffit pas de critiquer la Chine pour que les pays africains se disent... Quand c'est... pardonnez-moi, j'ai un trou de mémoire. Bill Gates, qui a beaucoup fait pour la lutte contre le sida et puis après pour la vaccination et la lutte contre le Covid-19, c'est pas un agent chinois, je ne crois pas en tous les cas. Il disait, mais quand on envoie les vaccins, les gens ne regardent pas s'ils sont chinois ou pas. Ils ne vont pas dire que c'est des vaccins communistes, ils les prennent. Et donc, pendant la diplomatie du Covid-19 chinoise, elle est aussi pertinente. Donc, dire, les Chinois font de la propagande en aidant les autres pays, les autres pays sont contents d'être aidés. Ils ne vont pas dire, on refuse cette aide. Donc, il faut être à la hauteur de ce que font les Chinois plutôt que de les critiquer.
Alors, on parle beaucoup de la possibilité que la Chine puisse servir de médiation au moment où il y aura des négociations entre les belligérants. Et en même temps, on voit bien que la Chine est réticente vis-à-vis de toute agression et de tout commitment armé d'un pays contre un autre. Mais justement, on a assisté il n'y a pas très longtemps au rapprochement, en tout cas un simulacre d'amitié, entre la Chine et Poutine, par exemple, entre Xi Jinping et Poutine. Que pensez-vous de cette démarche ?
Alors, il y aura pas. Je ne pense pas qu'il y ait un accord seulement sponsorisé par la Chine, parce que ça serait un tel désaveu pour les Américains que l'Ukraine ne pourra pas l'accepter. Mais la Chine pourrait faire partie d'un consortium de pays qui épaule un plan de paix, éventuellement. Par rapport à la Russie, la Chine est un peu mécontente de la guerre. Il trouve que Poutine a été maladroit, est venu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais ils ne pourront jamais accepter une défaite russe. Une défaite, ce serait une victoire occidentale. Donc, enfin, une défaite humiliante. Si la Russie doit rendre les territoires, ça... La Chine n'a jamais reconnu l'annexion de la Crimée. La Chine ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée. Donc, si la Russie perd le Donbass, ce n'est pas grave. Même la Crimée. Mais un effondrement de la Russie, non. Et les Chinois sont hostiles au changement de régime en tant que tel. Donc, ils voient que la Russie tombe dans leurs bras comme un fruit mûr. Ça les avantage. Mm-hmm. Les Russes leur ont proposé d'augmenter leurs exportations de gaz à leur destination. Les Chinois ont dit non, on préfère continuer une diversification. On a déjà augmenté votre part, mais pas tellement plus. Donc, voilà, c'est pour cela qu'ils jouent assez habilement, je pense.
La dernière question qui est posée, je l'ai vue plusieurs fois, c'est une inquiétude vis-à-vis justement des réactions de la Russie par rapport à l'Europe de l'Est. Que pensez-vous des commentaires de Medvedev, de bombarder l'Allemagne si Poutine était stoppé, ou de Kadyrov d'envahir la Pologne ensuite? Et puis dernière question par rapport à Prigojine, quel est le rôle que vous voyez? On n'en a pas parlé. Hein.
Oui. Alors, Prigojine qui insulte le ministre de la Défense, qui insulte le chef d'état des armées, ça donne une très mauvaise image que sous Staline, ça ne serait pas passé comme ça. Donc, ça montre quand même, on dit qu'il fait sans accord avec Poutine, mais ça montre quand même que Poutine ne contrôle plus autant la situation. Du temps de Staline, ça ne se passait pas comme ça. Et donc, il y a à la fois un néo-stalinisme en termes de restriction des libertés, mais Poutine subit les événements en ce moment, plus qu'il ne les contrôle. Medvedev, c'était le libéral. Quand il était président, c'était l'homme des contacts avec l'Occident. Il avait accepté de ne pas mettre son veto sur la résolution qui permettait l'intervention en Libye. Poutine lui a dit « Tu as fait une erreur. Les Occidentaux vont nous avoir comme d'habitude. » Et Medvedev dit « Non, non, j'ai confiance, Sarkozy, etc. J'ai confiance, etc. » Comme une intervention, on lui a fait son procès. Et c'est comme ça que Poutine a repris le pouvoir en 2012, alors que Medvedev, lui, se disait ben, peut-être que quand on est président, par intérim, on pense qu'on peut durer plus longtemps. Et donc, comme c'est comme dans l'époque stalinienne, c'est les plus libéraux qui deviennent les plus durs. Comme Medvedev était l'homme des contacts avec l'Occident, il fait la surenchère ultranationaliste pour garder sa place.
Vous avez aussi mentionné, ça c'est moi qui parle, c'est pas l'interlocuteur. Vous avez mentionné que c'est un échec de la France, finalement, que les pays européens se tournent du côté de l'OTAN plutôt qu'on aurait espéré autre chose. Et pourtant, l'exemple de Kaboul pourrait quand même susciter des méfiances. Parce que,
oui, mais la guerre en Ukraine a effacé Kaboul. La guerre en Ukraine a effacé Kaboul. Le 15 août, le 16 août 2021, il y a une crise de confiance envers les États-Unis. Le 24 février, tout le monde se dit, c'est oublié, il n'y a qu'un pays qui ne peut protéger, ce sont les États-Unis. Et avant la prochaine crise de confiance. Parce que là, l'autonomie européenne est en état de mort cérébrale, mais ça va ressurgir un jour. Si Trump est réélu, on reparlera encore de cela.
Bien, bah, écoute, merci beaucoup, Pascal. Merci. Et merci.